On va commencer notre premier sermon sur la souveraineté de Dieu. Et aujourd'hui, tout simplement, on va l'appeler introduction. On n'ira pas en profondeur sur rien aujourd'hui. On va juste regarder les choses dans leur ensemble. Et ensuite, dans les autres semaines, on va prendre les points qu'on a mentionnés et on va les développer. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt le but de la leçon du sermon, c'est plutôt de présenter qu'est-ce que c'est la souveraineté de Dieu, les différents aspects, et quand on va avoir mentionné les différents aspects, au cours des prochaines semaines, on va prendre chacun des aspects et on va les développer en détail. Et ça devrait amener quelque chose, un changement dans nos vies. Alors, le verset que je me sers, il y a plusieurs versets qu'on pourrait utiliser pour parler de la souveraineté de Dieu, mais très certainement, 1 Chronique 29, verset 11, est vraiment extraordinairement bon pour présenter la doctrine de la souveraineté de Dieu. Dans le verset 11, ça dit « À toi, Éternel, est la grandeur et la puissance et la magnificence et la durée sans borne et la splendeur. Car tout, dans les cieux et en la terre, est à toi. À toi, Éternel, est le règne et tu t'élèves en souverain au-dessus de tout. » Alors, c'est vraiment un verset important pour parler de cette... Alors, c'est vraiment le verset qui nous dit que Dieu est au contrôle du ciel et de la... sur tout ce qui existe, ciel et de la terre, et qu'il est souverain au-dessus de tout. Souverain, ça veut tout simplement dire qu'il est au contrôle, qu'il exerce un contrôle absolu et parfait sur toute chose. On a aussi Éphésiens 1:11. C'est en lui aussi que nous devenons son lot, ayant été les objets d'une prédétermination, selon le dessein arrêté, de celui qui opère avec efficace toutes choses selon le conseil de sa volonté. On ne rentrera pas dans les détails d'explication des versets aujourd'hui, on va juste faire une introduction, mais on va revenir là-dessus. Dans Isaïe, au chapitre 37, et versets 26 à 20 et 29, il dit, « N'as-tu pas entendu que j'ai fait ceci dès longtemps, que dès les jours d'ancienneté, j'en ai formé le dessein? Maintenant, je le fais arriver, et tu es là pour renverser en monceau de ruines des villes fortes. Parce que tu te démènes contre moi, et que ton insolence est montée jusqu'à mes oreilles, je vais mettre mon crochet à ton nez et mon frein entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin où tu es venu. » C'est un passage intéressant parce que ça parle d'une nation qui voulait attaquer Israël. Le Seigneur, il dit, « Garde bien ce que je vais faire avec toi. On fait comme on fait avec un animal. Je vais te mettre un crochet dans le nez, je vais te mettre un mort, puis tu vas t'en retourner où ce que je veux que tu t'en retournes. » Ça montre-tu jusqu'à quel point... Non, on parle d'une nation envahissante, d'une nation militaire. Alors, quand le Seigneur est capable de faire ça avec une armée, avec un pays... Imaginez-vous que c'est capable de faire avec des individus. Alors, Lamentations 3, versets 35 à 39. Quand on fait fléchir le droit d'un homme en présence de la face du Très-Haut, quand on fait tort à quelqu'un dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui est-ce qui dit qu'une parole qui s'exécute sans que le Seigneur l'ait commandée? Vous? Qui est-ce qui dit qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait commandé? Les mots et le bien ne procèdent-ils pas de la bouche du Très-Haut? Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de son péché? Autrement dit, c'est en train de nous dire que y a rien qui arrive, que ce soit quelque chose que nous on considère comme bien ou que ce soit quelque chose que nous on considère comme un mal, qui n'ait pas été parfaitement contrôlé par le Seigneur, même commandé, parce que ça dit, qu'est-ce qui dit qu'une parole qui s'exécute sans que le Seigneur l'ait commandée? Alors, la doctrine de la souveraineté de nos jours est peu enseignée, négligée et souvent très mal comprise. Elle est pourtant d'une importance capitale et d'une très grande utilité pour exalter la personne de Dieu et pour notre instruction et utilité dans la vie quotidienne. Plus on va comprendre la doctrine dans sa profondeur, dans sa richesse, dans ses divers aspects, plus ça devrait avoir un impact important dans notre vie comme telle. Alors, on va commencer à expliquer un petit peu la souveraineté de Dieu. On va expliquer sommairement aujourd'hui ce qu'on va regarder, on va dire comme les Anglais, the big picture. On va regarder la grosse image pour commencer. Et après, on va aller dans les détails dans tout cela. Alors, si on voulait la définir, la souveraineté divine, la souveraineté de Dieu, comment on définirait ça? Alors, les Saintes Écritures enseignent que Dieu est l'autorité suprême, qu'il contrôle tout de façon sage et parfaite, et que tout ce qui arrive a été prévu et ordonné par lui, et que son dessein divin, dessein pas dans le sens qu'on fait un dessin, là, dessein son intention ou son plan, sa volonté, s'accomplit toujours. C'est le fait que Dieu a, de toute éternité, décidé, choisi, et déterminer en conseil, donc toutes ces choses-là se font en conseil dans les trois personnes de la Trinité, le cours de tous les actes et événements sans exception dans tout l'univers, dans le temps et pour l'éternité. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais c'est gros ce qu'on est en train de dire. Il dit, c'est le fait que Dieu a de toute éternité, on va le reprendre tranquillement, décidé, choisi et déterminé en conseil, le cours de tous les actes et événements, sans exception. Autrement dit, il n'y a rien qui arrive sur la terre ou dans l'univers que Dieu n'a pas décidé, choisi ou déterminé que ça arriverait. Alors, de tout l'univers, dans le temps, alors depuis qu'il a créé l'univers, aller jusqu'à la fin et même plus que jusqu'à la fin. Parce qu'après la fin, nous, on va aller au ciel. Mais les événements qui vont se passer dans le ciel, ce qu'on va vivre là, tout ça aussi, ça a été décrété, choisi et prédéterminé par le Seigneur. C'est quelque chose de tellement vaste que ça dépasse de beaucoup notre entendement. On a dans Ésaïe 46, les versets 9 et 10. Il dit « Souvenez-vous des premières choses, de toute ancienneté, car c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point comme moi. » Regardez le verset 10. « J'annonce dès le commencement ce qui sera à la fin, et d'avance ce qui n'aura pas lieu. Je dis mon dessein subsistera et j'exécuterai tout mon bon plaisir. » Autrement dit, le Seigneur est en train de dire « C'est ce que j'ai décidé qui va arriver de toutes les époques, dans tous les domaines de l'univers, sur la terre, les nations, les individus. Ça va arriver parce que je l'ai décidé. » Et comme il dit, j'exécuterai tout mon bon plaisir. Comment que les hommes chercheront à se mettre à travers la route du Seigneur, ça ne marchera pas. Dans Hébreux, chapitre 6, au verset 17 et 18, il va y avoir beaucoup de versets dans nos leçons sur la souveraineté de Dieu, parce que c'est... Mais je voulais vous dire qu'on en parlait tantôt. Les leçons, bien entendu, je les mets toujours en PDF, je vais les mettre sur le site web. Mais j'aimerais vous offrir quelque chose, je ne sais pas si ça va intéresser des gens. Ce qu'on pourrait faire, ce serait d'acheter des petits cartables avec une pochette où ce serait clairement identifié la souveraineté de Dieu. Et les leçons, on pourrait les imprimer et les mettre dans votre cartable, parce que ça, c'est des genres de doctrines qu'il faut reviser une fois régulièrement. Et plus on a ça dans l'esprit, plus on a ça, qu'on a bien, vraiment bien compris ces choses-là, plus ça a un impact très concret sur notre vie de tous les jours. Alors, si après le culte, là, on vous demanderai de lever la main ceux qui s'intéressent, et à ce moment-là, on achètera des petits cartables, et à chaque semaine, j'emmènerai le nombre de leçons qui a été demandé, et vous pourrez les introduire dans votre cartable, et garder ça comme un enseignement sur la souveraineté de Dieu que vous auriez intérêt à reviser d'une façon régulière. Alors, Hébreux 6, versets 17 et 18, ça dit « C'est pourquoi Dieu voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l'immuabilité de son conseil. » Autrement dit, ce qui a été décidé de toute éternité entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est immuable. Immuable, ça veut dire que ça ne change pas. Ça ne changera pas. Dieu va exécuter ce qu'il a décidé. Alors, il dit « Intervint comme médiateur par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu manque, nous ayons une consolation puissante nous qui avons eu notre refuge à saisir l'espérance qui est devant nous. Romains 9, versets 15 et 18. Car il dit à Moïse, ici c'est Dieu qui parle, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Verset 18, « Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Maintenant qu'on a fait une définition un peu sommaire de ce que c'est la souveraineté de Dieu, maintenant on peut se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il le droit de régner? Premièrement, parce que les Écritures nous enseignent qu'il est le Créateur de toutes choses. Apocalypse, chapitre 4, verset 11. « En disant, tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, parce que c'est toi qui créas toutes choses et que c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Pourquoi il a le droit de devenir toute sa création? C'est tout simple, tout simplement parce que c'est lui qui l'a créé. Deuxièmement, parce que toutes choses lui appartiennent selon les Écritures. Deutéronome chapitre 10, verset 14. « Voici les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent à l'Éternel, ton Dieu. » Et troisièmement, pourquoi Dieu peut exercer sa souveraineté, son droit de régner sur toutes choses? Parce que Dieu a toutes les perfections de façon infinie. Ça, c'est un aspect, on lisait ce matin le psaume 145, on parle de Dieu et on dit que tout en lui est insondable. L'aspect sans borne. Peu importe de quoi on parle, quel aspect de Dieu qu'on parle, qu'on parle de l'amour, qu'on parle de la sagesse, qu'on parle de la miséricorde, qu'on parle de la grâce, il y en a plusieurs attributs, ça dit que c'est infini et insondable. Ça veut dire que je passerai toute ma vie à étudier un seul attribut et je ne verrai jamais le fond. Et quand je vais arriver au ciel, je vais continuer à découvrir le même attribut et je n'atteindrai jamais le fond, même dans l'éternité. Ça vous donne-tu une idée de la grandeur? Et ça, c'est la vérité pour chacun de ses attributs. Pourquoi il a le droit de régner? Parce qu'il est parfait dans chacun de ses attributs, de ses facettes. On va en nommer quelques-unes. Normalement, les théologiens vont... Il y a plusieurs façons de classifier les attributs de Dieu. Mais souvent, on va prendre la méthode suivante. On parle d'attributs incommunicables et d'attributs communicables. Les attributs incommunicables, c'est les attributs que Dieu a, mais qu'il ne peut pas faire partager avec sa créature. Les attributs communicables, c'est ceux que Dieu a, mais que Dieu peut faire connaître jusqu'à un certain point et peut partager avec ses créatures. Dans les attributs incommunicables, on a l'indépendance. Autrement dit, Dieu, avant qui crée le monde, était parfait. Il était parfaitement heureux entre les trois personnes de la Trinité et il n'avait pas besoin de créer. Alors l'indépendance, ça veut dire que même s'il n'aurait pas créé le monde, il n'y avait pas de problème. Il ne nous a pas créé parce qu'il avait besoin de nous autres. Donc l'indépendance, on pourrait beaucoup développer là-dessus. L'immutabilité, autrement dit, le fait que Dieu a décidé des choses et que c'est immuable, ça ne changera pas. Ça va s'exécuter dans le temps et dans l'espace. L'omniprésence, le fait que Dieu est présent ici, il est présent à Montréal, il est présent à Chicago, il est présent à New York, il est présent sur la Lune, il est présent sur toutes les étoiles, il est présent dans tout l'univers au complet. Alors ça, c'est un attribut que Dieu ne peut pas partager. On ne sera jamais omniprésent. Parce que quand on va être au ciel, on va être au ciel, mais on ne sera pas partout dans l'univers en même temps. Lui est partout en même temps. Et le fait qu'il est unité, il est un, malgré qu'il y a trois personnes, il est un, et donc il n'est pas divisé en parties. Dans les attributs communicables, il y a la spiritualité, l'invisibilité, l'omniscience, la sagesse, la véracité, la fidélité, la bonté, l'amour, la miséricorde, la grâce, la patience, la sainteté, la paix, l'ordre, la justice, la jalousie, la colère, la volonté, la liberté, l'omnipotence, la perfection, la félicité, la beauté, la gloire. OK, j'ai tout nommé, renommez-moi. Quand on parle que Dieu est grand, voyez-vous, on entend tous les attributs de Dieu, toutes ses perfections, toutes ses facettes, et on n'est même pas capable d'y répéter. Ça veut dire que notre connaissance de Dieu est très limitée. Et elle est très partielle et souvent, ça revient souvent sur les mêmes attributs. Mais pourtant, Dieu a tout ce que j'ai nommé là, et c'est infini. Ça, moi, c'est un aspect de plus en plus qui me fascine littéralement. Le fait de savoir que Dieu est insondable. Chacun de ses attributs, là, on va prendre un qu'on connaît, bien que tout le monde est d'accord que Dieu possède celle-là, l'amour. Je peux regarder dans les Écritures ce que Dieu dit. Je peux regarder des exemples d'amour qu'il a eu envers son peuple, envers son... Mais Dieu dit que son amour est insondable. Ça veut dire que l'être humain, quand il est proche de Dieu, quand il n'a pas trop de péché dans sa vie, en étudiant les Écritures, en passant du temps avec le Seigneur, en demandant au Saint-Esprit de l'éclairer, va finir par découvrir des richesses dans l'amour de Dieu qu'il n'avait jamais vu avant. Mais même s'il fait ça toute sa vie, en étudiant juste l'amour, au bout de sa vie, là, pensez-vous qu'il comprend vraiment ce que c'est l'amour de Dieu? Non. Parce que l'éternité elle-même ne suffira pas. Quand on va arriver au ciel, on va découvrir l'ensemble des attributs de Dieu. Un par un, on va découvrir des facettes. Et on n'aura jamais fini de le découvrir jusqu'au bout. Parce que l'éternité, c'est long, là. On va découvrir, et on va faire « Ah! » On va découvrir, et on va faire « Ah! » Et ça va être de même sur tous les attributs. Ça va être... Pourquoi ils appellent ça là, le bonheur dans le ciel? Pour d'après moi, c'est la découverte constante de qui Dieu est. Des fois, là, je ne sais pas si ça vous arrive, ça doit sûrement vous arriver, ça arrive à tous les chrétiens, quand on étudie la Bible, des fois, on arrive sur un aspect de Dieu. Par exemple, je pense que c'est mercredi dernier, tu m'avais parlé, tu avais mentionné le roi, oui. Comment il s'appelait? Manassé. Moi, je me souviens l'effet que ça m'a fait quand j'ai lu Manassé. Manassé qui avait été pire que toutes les nations environnantes dans l'idolâtrie, faire passer ses enfants par le feu. Il n'y avait pas un péché qu'il n'avait pas fait. Et Dieu permet qu'il soit pris, qu'il soit amené à Babylone. Et là, quand il est arrivé à Babylone, Dieu permet qu'il comprenne l'ampleur et la gravité de son péché. Et il se repent, parce que Dieu lui donne la repentance. Imaginez-vous, Dieu le replace, lui redonne par grâce. Vraiment une grâce, parce qu'il aurait mérité. Il était pire que les nations. C'est comme si nous autres, on deviendrait pire que les païens qui sont autour de nous autres. Et le Seigneur lui fait grâce. Moi, l'effet que ça m'a fait, là, c'est que j'ai pleuré. « Oh, Seigneur, dis donc, ben, ah, pas bon ça. » Je voyais la bonté de Dieu et ça me virait littéralement à l'envers. Mais imaginez-vous, pensez-vous que j'ai vu vraiment toute la bonté de Dieu là, dans ce passage des Écritures-là? Ben non. Mais c'est ça qui est merveilleux, parce que quand on va arriver au ciel, on va découvrir le Seigneur dans chacune de ses facettes, de ses beautés, de ses bontés. Et on va découvrir de plus en plus, et ça va nous fasciner littéralement. Et on va toujours... Tu sais, des fois, on parle de ceux qui se droguent, ils atteignent des highs, ils appellent ça. Hein, tu pognes un buzz, comme on appelait dans le temps. Tu pognes un buzz. Mais là, des buzz, tu vas en avoir sans arrêt. Continuellement, une découverte du Seigneur qui va être tellement satisfaisante pour l'âme, qui va t'emmener de la béatitude, de la joie et toutes ces choses-là. Alors, le fait qu'il est le créateur de toutes choses, que toutes choses lui appartiennent, et qu'il a tous les attributs de façon infinie et insondable, pensez-vous que ça lui donne le droit de régner sur tout ça? Intelligence infinie, sagesse infinie, bonté infinie, sainteté infinie, et on pourrait allonger toute la liste que je vous ai nommée tantôt. Alors, si tu as tout ça, puis de façon infinie, est-ce que ça te donne le droit de diriger ce qui se passe à la Terre, ce qui se passe dans l'univers? Bien sûr. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est quelle est la nature de son pouvoir. Quand on est dans la doctrine de Dieu, bien sûr, on a un grand pouvoir. Alors, le pouvoir de Dieu est absolu. Psaume 103. les versets 19 à 22. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Juste ce verset-là, on pourrait passer des sermons et des sermons et des sermons et des sermons. Et des... Son règne domine sur toutes choses. Vous pensez à la Lune, il domine sur la Lune. Vous pensez à Mars, il domine sur Mars. Vous pensez aux innombrables étoiles qu'on avait vues dans Genèse par milliards. Il les contrôle toutes, leur a donné des noms. Verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges puissants en force, qui exécutez sa parole, docile à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui exécutez sa volonté. » Verset 22, « Bénissez l'Éternel, vous, tous ses ouvrages, dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. » C'est, encore là, on pourrait passer beaucoup de temps, juste à expliquer le psaume 103, verset 19. Psaume 135, verset 6 et 7. Tout ce que veut l'Éternel, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tu sais, des fois, quand on pense à ça, hier, je suis allé sur le bord du lac, à Biopolis, j'aime bien ça, à la Biopolis. Puis, il arrive des étrangers, ils venaient de Grimby. Puis il doit y avoir du gros poisson là-dedans. Hein? Bon, dit, ça doit. Hein? Moi, je ne suis pas un gros pêcheur, fait que je ne sais pas. Mais juste de penser que toute la vie qu'il y a dans le lac Mégantic, le Seigneur contrôle toutes les formes de vie qu'il y a là-dedans, du poisson, toutes les petites formes de vie. Il contrôle. Là, on parle du lac Mégantic. Mais si on parle des océans, avez-vous déjà vu des émissions sur la quantité, la variété de poissons qu'il y a là-dedans? C'est inimaginable, des poissons, des gros, des petits, des moyens, des microscopiques. Il n'y a rien qui existe dans quelque endroit que ce soit, oiseaux, poissons, êtres humains, sur lequel le Seigneur ne possède pas le contrôle absolu. Ça, c'est extraordinaire de penser à ça. Alors, verset 6, ça dit « Tout ce que veut l'Éternel, il le fait dans les cieux sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les vapeurs du bout de la terre, il fait les éclairs pour la pluie et tire le vent hors de ses trésors. » Maintenant, on parle de sa forme, de la nature de son pouvoir. Il détient toutes les formes de pouvoir. On sait que sur la terre, en général, les gouvernements humains cherchent à diviser le pouvoir en trois catégories, qu'on appelle législatif, exécutif et judiciaire. On prend notre pays à nous, qu'on comprend notre pays. Législatif, ça veut dire qu'il y a une partie de ceux qui ont du pouvoir qui font les lois. Législatif, on fait la loi. Exécutif, ça veut dire que ça prend quelqu'un pour être capable d'exécuter ce qui est dans la loi. Parce que si tu désobéis, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne te voir. Tu ne payes pas tes impôts. Ah, nous, on dit dans la loi qu'il faut que tu les payes. Fait qu'ils ont le moyen, ils ont les pouvoirs de venir te voir, puis de dire, il faut que tu payes tes impôts. Si tu ne les payes pas, on va te saisir ta maison, on va te saisir ton auto. Ils ont le pouvoir exécutif. Autrement dit, il y a une partie de la société à qui on confie la capacité d'exécuter ce qui a été décidé dans les lois. Et on a le judiciaire. Quand quelqu'un vole, puis tu n'as pas le droit de voler, bien, on te prend, on te met en prison. Normalement, ces trois catégories de pouvoir qui sont séparées dans les gouvernements modernes. Mais Dieu a tous les pouvoirs et toutes les formes de pouvoir et il les exerce à la perfection. Voyez-vous, dans le verset Ésaïe 33, verset 22, ça dit « Car l'Éternel est notre juge. » Juge, c'est quoi ça? Judiciaire. « L'Éternel est notre législateur. » Législateur, c'est quoi ça? Pouvoir législatif. L'Éternel est notre roi, exécutif. L'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Il a tous les pouvoirs dans tous les domaines et il n'a pas besoin de séparer ça, il est capable. Il a les capacités et l'intelligence et les qualités nécessaires pour bien mener tout cela en même temps. Et autre chose qu'on voit dans la nature du pouvoir de Dieu, c'est qu'il ne rend de compte à personne. Tu sais, nous, on a tous des devoirs à rendre à quelconque. Quelqu'un qui est premier ministre, il a des devoirs à rendre à son caucus, il a des devoirs à rendre à son parti, à la population. Seigneur ne rend pas de compte à personne. Pourquoi il n'y a pas besoin de rendre compte? Tout ce qu'il fait est parfait. Tu n'as pas besoin de rendre compte à personne. Ça dit dans Job 33, verset 13, « Pourquoi contestes-tu contre lui? Car il ne rend point compte de toutes ses affaires. » Alors, ses affaires, c'est tout ce qui existe. Puis, on n'a pas d'affaire à le questionner. Pourtant, souvent, par péché, notre nature pécheresse, on questionne Dieu. « Pourquoi tu m'envoies ça? J'ai-tu besoin de ça, malheur? » Et, mais c'est pas qu'on fait ça continuellement. Mais quand on fait ça, là, on est en train de contester avec le Seigneur. C'est comme si on était en train de dire ce que tu fais, ce que tu as décidé qui m'arriverait, c'est pas sage, c'est pas ça que j'ai besoin. Le Seigneur, il sait ce que tu as besoin. Puis ce qu'il t'envoie, c'est ça que tu as besoin. Alors, comme chrétien, on se devrait d'accueillir la providence de Dieu et voir sa main dans tout ce qui nous arrive. Et se contenter de ce qu'il nous envoie. On pourrait faire beaucoup de... Alors, le Seigneur, dans Job 41, dit, verset 2, il dit, « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce que quelqu'un peut vraiment s'opposer aux décisions que l'Éternel a prises sur toutes choses, de toutes les époques, de tous les temps? À Isaïe 14, versets 24 à 27. « L'Éternel des armées l'a juré, disant, certainement, la chose arrivera comme je l'ai projetée, et ce que j'ai résolu s'accomplira. De briser Assur dans ma terre et de le fouler aux pieds sur mes montagnes, son joug sera ôté de dessus mon peuple et son fardeau de dessus de leurs épaules. C'est là le dessein arrêté contre toute la terre, c'est là la main étendue sur toutes les nations, car l'Éternel des armées a formé ce dessein. Qui l'empêchera. C'est sa main qui est étendue qui la détournera. » Autrement dit, l'idée, c'est qu'il n'y a aucune forme possible d'opposition au décret, à la volonté de Dieu. Maintenant, on va regarder quelle est l'étendue de son règne. Et c'est là que je vous dis, je vais vous nommer à peu près 6 ou 7 domaines sur lesquels le Seigneur règne. Et on va reprendre chacun de ces domaines-là dans nos leçons à venir. Quelle est l'étendue de son règne? Dans le psaume 103, verset 19, ça dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Alors, je vous disais, j'avais trouvé du matériel concernant la souveraineté de Dieu et son nom, c'est Elisha Coles. Il a écrit une œuvre importante, une brique 300 pages, sur ce sujet-là, la doctrine de Dieu, mais il l'a vraiment développé pas à peu près là. Et ce que j'aime des puritains, c'est qu'ils n'avancent rien sans parole. Ils avancent quelque chose, parole de Dieu. Ils avancent quelque chose, parole de Dieu. Et c'est littéralement rempli de versets. Et il écrit cette œuvre-là qui s'appelle God's Sovereignty. C'est encore utilisé de nos jours, même si ça a été écrit dans les années 1600. Et c'est hyper riche. Alors, rien que pour vous donner une idée jusqu'à quel point c'était recommandé, il a vécu lui de 1608 à 1688, et son œuvre, qui est God's Sovereignty, a été recommandée chaudement par un des leaders les plus influents des puritains à l'époque, qui s'appelait Thomas Godwin, et également par le prince des théologiens, qui s'appelle John Owen. Si vous allez dans les milieux anglophones, vous étudiez la théologie, la plupart des théologiens anglophones vont dire que John Owen, qui était un théologien puritain de l'époque, était probablement le plus grand théologien qui a jamais paru dans les milieux anglophones, depuis 1600, même amené jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'était pas un deux de pique. Et cette personne-là dit que l'œuvre de Elisha Coles, là, il la recommandait chaudement. Alors, il y a du matériel là-dedans qu'on va utiliser au cours des prochaines semaines. Alors, le premier endroit où on peut voir que Dieu domine, règne, c'est sur la création. Alors, Ésaïe 40, versets 22 à 31. « C'est lui qui siège au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles, qui étend les cieux comme un tissu léger, qui les déploie comme une tente pour y habiter. » Mais les cieux, c'est des milliards d'étoiles. Et le Seigneur, il dit ici, qui étend les cieux comme un tissu léger. Disons, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre chambre à coucher, vous étendez un tissu sur votre lit. Forcez-vous. Non? Bien, ça dit que lui, avec l'univers, il fait ce que nous, on fait avec un tissu léger. Il contrôle ça de façon absolue. C'est inimaginable les masques qu'il y a là-dedans. Verset 23, qui fait les princes pareils à ce qui n'est pas, qui rend les juges de la terre semblables à néant. Autrement dit, tu es en train de te dire qu'il est capable de prendre un homme, l'élever au pouvoir, capable de prendre un homme au pouvoir, de le réduire à zéro. Il dit, à peine sont-ils plantés, à peine sont-ils semés, à peine leur souffle a-t-il pris racine en terre. Il ne fait que respirer contre eux. Écoutez bien les paroles. Il ne fait que respirer contre eux et ils sèchent. Autrement dit, le Seigneur, juste par sa pensée, est capable de prendre les hommes qu'aujourd'hui on regarderait comme étant des hommes de pouvoir, et il est capable de les réduire à néant dans le temps de dire. Et la tempête les emporte comme du chaume. À qui me feriez-vous ressembler pour que je lui sois pareil, dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est lui qui a fait sortir par nombre leur armée, qui les appelle toutes par leur nom, à cause de la grandeur de son pouvoir et de la puissance de sa force. Pas une ne manque. Pourquoi dis-tu au Jacob et parles-tu ainsi au Israël? Ma voix est cachée à l'Éternel et mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que l'Éternel est un Dieu d'éternité qui a créé les bouts de la terre? Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Insondable est son intelligence. Quand on rencontre quelqu'un de vraiment intelligent, tu sais, quand on va au cégep ou à l'université, puis on rencontre des profs, des fois, ils sont calés, sont vraiment, tu sens qu'ils te dépassent de beaucoup, là. Tu les regardes, puis on dirait que tu files petit devant eux. Imaginez-vous quand une intelligence est infinie et insondable. Devant Dieu, on ne peut pas faire autrement que de se sentir minus, comme on dit. Il dit, verset 29, il donne la force à celui qui est fatigué, multiplie la vigueur à celui qui est sans force. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel revêtent de nouvelles forces. Ils prennent un haut vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. On pourrait beaucoup développer juste à spécial. Alors, Dieu règne sur la création complète. L'univers, les étoiles, les planètes, les océans. Maintenant, Dieu règne sur la providence. Voyez-vous, j'ai pris la définition de la Confession de foi 1689 pour vous présenter qui c'est quoi la providence. On peut nommer ça, puis ça peut peut-être pas allumer quelque chose dans notre esprit. Ça devrait pourtant, là. Ça dit Dieu. Je vous donne l'article tel qu'il est mentionné, tel qu'il est écrit dans la Confession de foi 1689. C'est à l'article 5 au paragraphe 1. Il développe l'idée de la providence. Dieu, le bon créateur de toute réalité, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures et les choses, des plus petites aux plus grandes, par sa très sage et sa très sainte providence, en vue de la fin pour laquelle il les a créées, selon sa prescience infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. Quand on vous dit que dans la confession de foi, là, juste un petit paragraphe-là, là, on pourrait passer plusieurs semaines à expliquer ce que ça veut dire. On le lit rapidement comme ça, là, mais expliquer ce que ça veut dire dans les détails, ça c'est un autre game, comme on dit. Maintenant, la troisième chose sur laquelle il règne sur les hommes individuellement et collectivement. Alors, Jérémie 10, 23, c'est un verset qui nous rappelle bien cette réalité-là. Éternel, je connais que la voie de l'homme ne dépend pas de lui et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de bien diriger ses pas. Autrement dit, l'Éternel contrôle nos vies individuellement comme il contrôle les vies des collectivités, des pays. C'est inimaginable, quand on pense à ça. Maintenant, autre point, au quatrième point, Dieu règne sur les anges bons. Hébreux 1, versets 13 et 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds? Ne sont-ils pas tous des esprits ayant un ministère envoyé pour servir en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? T'es en train de dire que les anges bons, ils ont un rôle, ils ont un ministère, celui que le Seigneur leur a donné et qui ont un rapport avec notre propre salut. On ne réfléchit pas souvent à ces affaires-là, que les anges ont un rôle dans notre salut. C'est ça que ça dit. Envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, ils règnent sur les anges bons. Et là, on aurait pu sortir une multitude de versets pour nous parler de cela. Maintenant, Dieu règne sur les anges mauvais, les démons, Satan lui-même. Alors, dans Job, verset 1, verset 6 à 12, tu sais, des fois, on voit dans les Écritures que le monde gît sous la puissance du malin. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui est venu me dire que c'était le malin qui contrôlait ce qui se passe sur la terre. C'est vrai en partie. Mais Dieu contrôle par-dessus. La preuve, c'est quand on voit dans Job 1, verset 6 à 12, quand Satan s'est présenté devant Dieu et il voulait détruire Job, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Alors ça dit, verset 6 à 12, Job 1, « Et il arriva un jour que les fils de Dieu entrèrent pour se présenter devant l'Éternel, et Satan entra aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De parcourir la terre et de me promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu fait attention à mon esclave Job? Car il n'y a point sur la terre d'homme tel que lui, parfait et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? N'as-tu pas toi-même mis une haie tout autour pour lui, pour sa maison et pour tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'ouvrage de ses mains et ses troupeaux se sont répandus sur la terre. Mais étends donc ta main et touche à tout ce qui lui appartient et l'on verra s'il ne te bénit pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement, n'étends pas ta main sur lui. » Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Alors, ce n'est pas Satan qui contrôle. Parce que si Satan a été au contrôle de tout ce qui se passe à sa terre, il l'aurait pris, il l'aurait écrasé, puis il l'aurait détruit. Il est obligé d'aller demander la permission à Dieu. C'est Dieu qui contrôle tout ce qui se passe sur la terre. Même si Satan a un pouvoir sur la terre, c'est réel, c'est mentionné dans les Écritures, mais il ne faut pas oublier que Dieu a un pouvoir qui est au-dessus de tout cela. Satan et ses anges mauvais ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas obtenu la permission du Seigneur. Alors, il ne faut pas confondre les choses. Dieu contrôle de façon absolue toutes choses, et même Satan, qui a du pouvoir sur la terre, est lui-même contrôlé par la puissance de Dieu. Et sixième chose, Dieu règne sur ses saints. C'est qui, ça, les saints? C'est nous. Il règne sur nous. Romains 8, versets 28 à 33. « Et nous savons que toutes choses travaillent ensemble en bien pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein arrêté. » Toutes choses travaillent ensemble. « Parce que ceux qu'il a préconnus, il a aussi déterminé d'avance qu'il serait conforme à l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né parmi beaucoup de frères. » Voyez-vous, le Seigneur nous dit qu'il nous a préconnus puis nous a déterminé d'avance qu'on serait conforme à l'image de son Fils. C'est pas normal qu'un chrétien, à la force des années, au courant de ses années, ne s'améliore pas et ne devienne pas un peu plus chaque fois, chaque jour, un peu plus ressemblant à la personne de Christ. Parce qu'il dit qu'il nous a sauvés pour ça. Parce qu'il dit qu'il a déterminé d'avance qu'il serait, par les chrétiens, des saints, qu'il serait conforme à l'image de son Fils. Autrement dit, avec le temps, on serait censé de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et quand on veut regarder qui est Jésus-Christ, comment il se comportait, on a vu ça relire les évangiles, et on va se rendre compte qu'on a du chemin à faire pour être là. Mais il nous dit qu'il nous a créés dans ce but-là. Donc, il va nous emmener. Et dans le verset 30, ça dit, « Et ceux à l'égard desquels il a déterminé d'avance cela, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'épargna point son propre Fils, mais qui le livra pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas gratuitement avec lui toutes choses? Qui intentera accusation contre les élus de Dieu. Dieu, lui qui justifie. Et dernier point, et là, éventuellement, là, le point 7, c'est celui que, après qu'on va avoir passé les 6 premiers points, le point 7, on va le développer beaucoup plus en détail parce que c'est nécessaire qu'on le fasse. Alors, le dernier point, c'est Dieu règne dans l'attribution de son salut. S'il règne dans l'attribution de son salut, c'est lui qui décide à qui il l'accorde, puis c'est lui qui décide à qui il le donne pas. 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 et 9. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances pour la bonne nouvelle selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son dessein arrêté et selon la grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant l'état éternel. Romains 9, versets 14 et 18. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Qu'ainsi n'advienne, car il a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, ce n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « C'est pour cela même que je t'ai suscité, afin de montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié dans toute la terre. » Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Mais nous devons rendre grâce à Dieu, à votre sujet, frères, aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification de l'Esprit et dans la foi en la vérité. Après ça, il y aurait Éphésiens 1, verset 3 à 6, mais on va passer par-dessus. Parce qu'on manque de temps un peu. Acte 13, verset 48. Moi, Acte 13, j'aime beaucoup ce verset-là. Acte 13, 48, parce qu'il dit quelque chose d'une grande profondeur. Acte 13, verset 48. Et les gens des nations se réjouissaient en entendant cela, et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient ordonnés pour la vie éternelle crurent. Ordonnés par qui? Par le Seigneur. Et quand vous allez dans une autre version, la version Sterval, ça dit « Les gentils, entendant cela, se réjouissaient et donnaient gloire à la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » J'ai un traité que j'ai écrit, puis le titre, c'est « Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » On a une grande quantité en haut, éventuellement, on va les distribuer. Alors, Jonas, chapitre 2, verset 10, dit « Mais moi, je t'offrirai le sacrifice avec la louange, avec la voix de la louange, et j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Alors, éventuellement, on va développer le septième point, mais on va aller beaucoup plus en... Là, autrement dit, aujourd'hui, c'est pour vous donner une image de la big picture. Dans son ouvrage sur la souveraineté de Dieu, Arthur Pink mentionne quelle devrait être notre attitude envers le souverain suprême. Et en nomme cinq. On termine là-dessus. La première, c'est une attitude de crainte respectueuse. Psaume 103, verset 13, « Comme un père est plein de compassion pour ses fils, ainsi l'Éternel est plein de compassion pour ceux qui le craignent. » Alors, ça devrait nous amener à craindre l'Éternel davantage. Autre attitude qu'on devrait avoir devant la souveraineté de Dieu, une attitude d'obéissance implicite. Ça se dit dans le psaume 119, verset 36 et verset 133. « Incline mon cœur à tes témoignages et non point au gain. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Alors, quelque part, les Écritures devraient être pour nous un modèle où on cherche la volonté de Dieu et on veut l'accomplir. L'obéissance implicite. À cause de sa perfection, on se devrait d'avoir l'attitude de vouloir toujours obéir à tout ce qu'il dit. Troisième, une attitude d'acceptation totale, le contentement. Dieu nous envoie des circonstances dans nos vies et ce n'est pas toujours des circonstances qui sont agréables à notre point de vue. Il nous envoie des circonstances de mortalité, ça peut être des pertes de biens, ça peut être toutes sortes de choses qui nous arrivent. Pourtant, le contentement, c'est de voir que Dieu est au contrôle de tout cela et qu'il reconnaît sa main dans l'exécution de ce qui arrive dans nos vies, et de garder le contentement du cœur. On a de la misère avec ça, je l'avoue. Je l'avoue, moi j'ai de la misère. Vous devez probablement en avoir vous aussi. On a de la misère à garder notre sérénité face aux événements qui parfois sont douloureux que Dieu nous envoie. Prenons l'exemple d'un exemple de quelqu'un qui l'a fait. Job, chapitre 1, verset 21-22. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens, tous ses animaux. Et gardez bien qu'est-ce qu'il dit après qu'il a vécu ça. Il dit, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, je retournerai là. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'indigne à Dieu. » On a-tu une foi qui soit forte comme ça? Perdez tous vos enfants, perdez votre famille, perdez tous vos biens, perdez tout ce qui vous appartient, puis après, si vous êtes capable de dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. C'est du stock, ça. Quatrième attitude, une attitude de reconnaissance et de joie profonde. Dans le psaume 103, verset 2 et verset 22, ça dit, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénissez l'Éternel, vous tous, ses ouvrages, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. » Cinquième et dernière, une attitude d'adoration, bien entendu. Apocalypse 22, verset 8. « Et c'est moi, Jean, qui voyais et entendais ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombai pour adorer devant les yeux, devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses. » Alors, plus on va comprendre la souveraineté de Dieu, plus ça va nous amener à avoir un esprit d'adoration. Alors, implorons le Seigneur de nous donner de vivre intensément chacune de ces attitudes pour notre plus grand bien et pour sa plus grande gloire. Que notre grand roi soit loué, béni et adoré à tout jamais. Amen.